Salut tout le monde, bienvenue à la capsule de la claque. Comme chaque mois, on vous présente une nouvelle entrée à notre abécédaire qui commence à être un peu désordonnée. Le mois passé, on vous a présenté la chronique E comme exclusion, puis ce mois-ci, on saute à la lettre G comme gentrification. La gentrification, c'est pas un phénomène nouveau, puis encore moins un phénomène montréalais. Partout dans le monde, les citoyens et citoyennes ont lutté et luttent encore contre la gentrification ou l'embourgeoisement de leur quartier. Ça se pourrait-tu que cet enjeu soit un autre des symptômes du néolibéralisme? Avant de me lancer dans le vif du sujet, je tiens à mentionner que je fais le choix d'utiliser uniquement le masculin quand je parle des bourgeois crosseurs parce que même en 2016, les riches, c'est un boys club. Dans le classement des 100 PDG canadiens les mieux rémunérés en 2016, on comptait seulement deux femmes. En mars 2016, le Journal de Montréal a publié un classement des 5 personnes les plus riches au Québec. 5 hommes. Fait que j'utilise dans cette chronique le masculin exclusivement parce que ça cadre pas mal avec la réalité, mettons. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est la gentrification? La gentrification, c'est la transformation économique et sociale d'un quartier. Une gang de bourgeois puis de riches propriétaires choisissent d'envahir un espace habité par les classes populaires. Dans leur nouveau territoire, c'est la spéculation immobilière puis la recherche du profit qui font la loi. Les condos qui deal remplacent les logements locatifs abordables. On voit des commerces puis des cafés hors de prix qui squattent les locaux commerciaux devenus trop chers et des restaurants de luxe qui poussent dans des déserts alimentaires. La gentrification est rendue possible grâce au capitalisme, le système qui encourage certains crosseurs à s'approprier plus de ressources puis de biens que ce dont ils ont besoin pour ensuite faire de la spéculation avec tout ça. La construction abusive de condos qui coordonnent amène une augmentation importante de la valeur des terrains puis des logements. Comme résultat, les loyers augmentent, ce qui force les personnes démunies, les locataires à faible revenu puis les familles à quitter leur quartier. Les loyers des locaux commerciaux aussi augmentent, ce qui fait qu'on voit arriver des commerces qui proposent des produits puis des services que la majorité des résidentes et résidents ont juste pas les moyens de se payer. J'ai-tu besoin de mentionner que la gentrification contribue fortement à marginaliser des populations déjà défavorisées? Mais les gentrifieurs, c'est qui? Les gentrifieurs, c'est ceux qui permettent la gentrification. Fait que les propriétaires immobiliers, les promoteurs, les agences, les banques, certains commerçants puis les pouvoirs publics qui les subventionnent. Mais leurs ambitions ne pourraient pas se réaliser sans les nouveaux habitants et habitantes des quartiers populaires qui se transforment. Ces nouveaux et nouvelles arrivées jouent un rôle direct en achetant un ancien logement locatif transformé en condo, par exemple, ou indirect en acceptant de louer un logement ben trop cher, ce qui légitime les hausses de loyers abusives. Puis là, je déborde un peu du sujet principal pour faire un aparté sur le rôle de la classe moyenne dans le maintien de l'ordre en place. Parce que sans cette gang-là, le problème de la gentrification se poserait probablement pas. Cette classe sociale, qu'on appelle classe moyenne, fait vivre le capitalisme puis sert d'intermédiaire entre la bourgeoisie, c'est-à-dire la poignée de riches propriétaires, puis le prolétariat, qui sont les employés précaires, souvent en contrat puis toujours mal payés. Celles et ceux qui forment la classe moyenne ou la petite bourgeoisie encadrent les classes populaires, soit littéralement, en travaillant comme gestionnaire par exemple, ou souvent en s'assurant de reproduire l'ordre social actuel. On pense aux profs, par exemple, dont le rôle est de former de nouvelles gangs de personnes obéissantes qui remettront surtout pas en question l'autorité, aussi malsaine qu'elle puisse être pour elles-mêmes puis leurs collègues. On voit donc un rapport de domination clair entre la petite bourgeoisie qui se trouve être une classe intermédiaire puis la classe populaire. La gentrification en est un des exemples concrets. Pour revenir à notre sujet, comme toujours, les crosseurs qui tirent profit de la gentrification en ont rien à faire du stress puis de la précarité que la spéculation immobilière amène pour la majorité des gens. Au contraire même, ils ont le culot de nous faire à croire que ça nous profite en créant de la soi-disant mixité sociale puis des soi-disant jobs. Je dirais plutôt qu'on incite la petite bourgeoisie à choisir de se fermer les yeux, de fermer sa gueule puis d'assiéger un quartier populaire avec pour conséquence que celles et ceux qui étaient là avant doivent soit se résigner à vivre dans une plus grande précarité encore, avec des loyers, des services puis des commerces de proximité à des prix qui deviennent exorbitants, ou bien quitter leur quartier pour s'installer de plus en plus en périphérie. Puis ça se passe dans l'indifférence totale de la bourgeoisie qui met en place ce système puis de la petite bourgeoisie qui permet à ce système d'exister et d'être profitable pour les riches. Et ce que les bourgeois appellent des jobs ressemble plutôt à de l'esclavagisme moderne qui bien évidemment sert leurs intérêts. Une armée de gens qui n'a pas le choix de s'abaisser à servir les intérêts d'une poignée de riches dirigeants, créer de la richesse qui disparaîtra mystérieusement dans des paradis fiscaux ou au mieux qui servira à acheter des biens de luxe à l'usage exclusif de ces très chers crosseurs. Et pendant ce temps, Nos loyers augmentent justement grâce au nouveau prestige du quartier qu'amène cette richesse qu'on continue d'entretenir puis de développer à la sueur de nos fronts. On peut dire que la gentrification calque le système capitaliste, avec ses inégalités puis ses injustices. C'est un phénomène qui profite à une minorité, l'élite financière, qui s'enrichit en dépouillant les classes populaires, en se servant de la petite bourgeoisie aveugle pour arriver à ses fins. La meilleure façon d'y mettre un frein, c'est de se tenir debout puis de défendre nos droits collectivement. De refuser de louer des logements trop chers, de contester les hausses de loyers illégitimes, puis de boycotter les commerces trop chers qu'on installe devant chez nous. À Montréal, plusieurs quartiers ont lutté et luttent encore contre la gentrification. On pense au plateau Mont-Royal par le passé, à Saint-Henri ou Hochelaga-Maisonneuve aujourd'hui. Mais le fléau est malheureusement bien plus général. Par chance, il y a les comités logements pour défendre les droits des locataires puis nous aider à lutter contre la gentrification. La CLAQ s'est d'ailleurs rendue au 40e anniversaire du comité logement Ville-Marie le 13 décembre passé. On en a profité pour essayer de connaître les enjeux de la gentrification, en particulier dans l'arrondissement Ville-Marie, puis aussi pour avoir un aperçu des réalités des personnes qui vivent les conséquences de la gentrification, puis qui sont elles-mêmes actives dans la lutte. On vous présente donc un montage de quelques extraits de ce Vox Pop. Guétan, qui est organisateur communautaire pour le comité logement Ville-Marie depuis 2001, nous parle d'abord de l'évolution de la situation du logement dans l'arrondissement Ville-Marie, puis Roxane nous explique entre autres la difficulté de se loger à Montréal en ayant une famille. Sylvie nous résume son combat et sa victoire contre son proprio qui voulait reprendre son logement pour faire de la spéculation immobilière, et le même Guétan nous explique que l'absence de politique du logement au Québec puis l'inéquité de la répartition des richesses sont à la source des problèmes de logement.
Quand je suis arrivé il y a 15 ans, il y avait déjà tous les problèmes d'accessibilité, problèmes d'insalubrité, problèmes de recherche de logement. C'est très là, très senti. Ce qui a beaucoup changé, c'est la venue de nouveaux ménages dans le quartier, les condos qui ont poussé, et de voir les gens se rendre compte que non seulement on pensait peu à eux, mais qu'aujourd'hui on ne pense pas à eux, que lors des campagnes électorales, tu n'entends jamais le mot pauvreté. Et là, les gens se sentent vraiment, ils se sentaient menacés. Maintenant, ils ne sont pas juste menacés, ils sont chassés. Et les gens, ils essaient de demeurer dans leur quartier, non seulement ils ne peuvent plus parce qu'on les discrimine, parce qu'ils sont pauvres, chômeurs, c'est social, tout ce que tu veux, mais qu'en plus, c'est que les logements, à cause de la venue de condos, ça l'a fait monter les valeurs foncières. Donc, les loyers ont monté en flèche et les locataires sont même plus capables de payer le prix de leur taudis, qui sont au prix de logements neufs, mais qui n'ont pas été améliorés. Donc, non seulement ils sont mal logés parce que les logements ne sont pas en bon état, ils sont souvent trop petits, mais en plus, c'est que si on regarde la valeur d'un logement, c'est que c'est dérisoire de louer un logement de 150 $ pour un 4,5, alors que ça fait comme 30 ans qu'il n'y a pas eu d'amélioration.
Le logement aussi, pour moi, c'est ça va aller toucher d'autres droits parce que quand on est obligé de payer le logement, on ne paiera peut-être pas l'alimentation ou aussi le droit au loisir ou à d'autres droits. L'enjeu d'avoir des enfants en logement en est un. Il y a beaucoup de propriétaires. En tout cas, moi, je me suis fait refuser des logements parce que j'avais un enfant, parce qu'on ne voulait pas que mon enfant fasse de bruit. Et cet enjeu-là est souvent passé un peu sur le silence, sous le silence.
J'ai commencé au comité logement du plateau Mont-Royal, où j'ai eu une reprise de mauvaise foi, c'était des spéculateurs. Alors, j'ai dit, moi, tu veux mon logement, attache-toi dessus. T'as l'argent, j'ai la loi. Fait que, les hors-la-loi dans la loi. Alors, moi, j'ai gagné. J'ai gagné une reprise de logement où il y a juste 15% des locataires gagnent versus 85% des propriétaires. Parce que j'ai réussi à prouver que la reprise était de mauvaise foi. Mais ça, je veux dire, moi, j'ai fait un travail titanesque. Mais c'est pas tout le monde qui va faire le travail titanesque comme moi j'ai fait. Je suis allée dans tous les comités logements. Je suis allée au RECLAC. J'ai dit, t'as-tu des actes de vente? Donne-moi tous les actes de vente. J'ai monté le tableau récapitulatif que c'était un spéculateur et aujourd'hui, il est en faillite. Alors, c'est un renversement de pouvoir assez peu commun, je dirais. Mais à un moment donné, il faut que les citoyens récupèrent leur pouvoir. Les comités logements, ça nous donne une drive, tu sais.
Tu as une politique en éducation, tu as une politique en santé, mais tu n'en as pas en logement. Et s'il y en avait une en logement, l'État aurait l'obligation que toute personne qui se ramasse à la rue, même si elle n'a pas payé son logement, l'obligation de la récupérer puis de l'aider. Mm. Un peu ce que le DAL en France, le droit au logement, essaie de faire. Et puis, ça, il appelle ça le droit opposable au logement. C'est de la théorie, mais ça marche quand même un peu. Puis, si on arrive à gagner ça, on ferait en sorte que là, on reconnaîtrait vraiment le fait que l'habitation est quelque chose de fondamental, primordial, et que c'est non seulement un privilège, mais ce n'est jamais, ça ne devrait jamais être considéré comme un droit fondamental, et que tout part de là. Tout le monde bat la pyramide de Maslow, tout ça, mais si tu n'as pas de logement, tu ne peux même pas aller chercher un emploi, tout ce que tu veux. Et fondamentalement aussi, toute la résultante du logement, c'est quand on va bien en arrière, la cause principale, on le sait, bien, c'est, on revient à ce que j'appelle toujours la répartition de la richesse. On a créé tellement de richesses dans les 30 dernières années, mais qui en a profité? Une minorité. Puis en plus, il y en a même une partie de la richesse qui est inaccessible parce qu'elle est cachée.
Donc, c'est ça le capitalisme.
Oui, exactement.
Voilà, donc c'est la chronique de la claque avec G comme gentrification. Si vous voulez réentendre cette chronique ou d'autres chroniques de notre abécédaire qu'on fait depuis environ 2 ans déjà, rendez-vous sur notre site internet claque-montréal.net/abécédaire. Je vous laisse sur un passage de Roxane qui résume très bien les causes et les enjeux de la gentrification. Merci de nous avoir écoutés, puis on se repart dans un mois.
Le logement, c'est un droit, puis qu'on devrait pas, ça devrait pas être un enjeu du capitaliste, en fait, et que ça devrait être réglementé dans le sens que ça devrait appartenir à l'État. Moi, je pense qu'on devrait pas payer plus que 25% de son revenu pour se loger, ça, c'est certain. Et un message à la population générale, considérant l'état actuel des choses, ben il y a des lieux d'implication, que ce soit au comité logement ou dans d'autres groupes d'extrême-gauche. Il y a des gens qui vivent la même réalité, puis on peut se regrouper, puis on peut faire quelque chose pour changer les choses.